Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilles Darbribois.
22h33, la Ligue 1 tout à l'heure après 23h, le Mercato et les affaires à la Fédé. Mais pour l'instant, le Maroc, et pas que, parce qu'on parle de la Coupe du Monde, on parle jeu avec Walid Regragui qui est là avec nous, sélectionneur du Maroc, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo et Oussem Loussaïef. J'en arrive donc à ces fameux binationaux. J'ai une petite liste. Adli du Bayer Leverkusen, attends, Ali Chou, Diop de Nice, Brahim Diaz de Milan, Ben Seguir de Monaco, bien sûr. Il y en a quelques-uns là. Bon, évidemment, ce débat revient en permanence sur les binationaux. On avait Nasser Largué pendant la Coupe du Monde qui nous expliquait la stratégie que lui avait mis en place avec le Maroc avant de partir. Est-ce que je me trompe si je dis qu'avec le Maroc ça a l'air moins compliqué qu'avec d'autres sélections africaines et que a priori les joueurs, vous n'allez pas rater d'énormes en fait sur les dernières années?
Bah déjà Nasser, il a fait un super boulot, c'est vrai, parce qu'on a des scouts partout. Je pense que la fédération aujourd'hui est une fédération qui travaille très bien. On a des scouts dans chaque pays qui connaissent pratiquement tous les joueurs d'origine marocaine. On est en contact permanent avec eux dès leur plus jeune âge. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas là non plus pour piquer des produits. On est là pour les accompagner à faire leur choix. Donc nous, on est là. On veut des gens qui soient sûrs de vouloir mouiller le maillot pour le Maroc et qui soient sûrs de leur choix, et pas par défaut. Et je l'ai déjà dit moi lors de mes conférences, je vais le répéter ce soir, c'est que il y aura pas d'ambiguïté. C'est où tu viens pour le Maroc parce que tu as choisi le Maroc, mais tu ne feras pas de chantage à dire voilà, il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Italie. J'hésite. Si tu hésites à mourir, à partir du moment où il y a une hésitation, c'est que tu n'es pas fait pour venir jouer au Maroc.
Donc c'est soit tu viens tout de suite, soit tu viens pas.
Non,
parce qu'il y a une exigence qui est plus importante, parce que comme on dit souvent, parfois il y a quand on va faire des matchs de qualif sur le continent africain, il y a des déplacements qui peuvent être compliqués, des motivations qui peuvent être pas simples à trouver selon les pays où il faut aller, et il faut vouloir venir et être à fond dans le projet, quoi.
Ben, je dis toujours quoi.
Moi, je pense que c'est partout qu'il faut être comme ça, mais bon.
C'est ce que je dis. Si tu vas jouer au Malawi, que t'as fait 12 ou 13 heures d'avion et que tu joues, qui fait 40 degrés avec un terrain qui est moins bon, je pense que dans les 10 dernières minutes, si t'as pas le cœur pour le Maroc, tu peux lâcher. Quand tu joues pour le Maroc, comme ils l'ont fait à la Coupe du Monde, tu lâcheras pas. Et ça, c'est important parce qu'apparemment, à partir du moment où il y a ce chantage et cette ambiguïté, le joueur, forcément, à un moment donné, il se dira, qu'est-ce que je fous là? J'aurais pas dû venir et c'est mon dernier match et je reviendrai pas.
C'est un discours assez proche de celui qu'a tenu pendant longtemps Belmadi.
Bah, je sais pas, mais en tout cas,
à un moment, lui aussi, il s'est dit, les gars, soit on veut venir, soit on veut pas venir.
En plus, je trouve qu'il y a une hypocrisie autour de ce terme d'ambiguïté. Parce qu'au fond, Walid, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais tu sais tout de suite, normalement, quand t'as l'appel d'une nation.
Mais moi, c'est ce que je dis, si tu fais ton choix par défaut, au début, si t'attends, on va parler par exemple de la France, parce que moi,
que la France t'appelle.
J'ai grandi en France, je suis né en France. Si t'attends et que tu joues pendant un ou deux ans à faire du chantage et dire je sais pas, c'est que t'attends la France.
Exactement.
Donc
c'est pour ça que je trouve qu'il y a une hypocrisie
après,
avec
ça, Oussem.
Après, je peux comprendre.
Il faut être complètement clair aussi sur cette affaire-là.
À 17 ans, c'est dur de faire ce choix-là. Je suis d'accord avec toi.
Déjà, il y a cet élément-là. En deuxième, on sait, moi, j'ai toujours tenu le discours anti-ambiguïté, les sélections d'opportunités. J'aime pas. J'aime que ce soit le cœur qui parle et que le binational, il fasse son choix comme il a envie de le faire et qu'on le critique pas après. Néanmoins, il faut quand même dire que parfois, les joueurs sont entourés par des membres de la famille ou par des agents qui peuvent également dire, attention, je pense qu'il serait, il serait quand même bon pour tout le monde que si t'es appelé par les Bleus, ça met de l'oseille pour tout le monde en plus
tu négocies autrement,
dans le cercle, que ce soit les agents, les conseillers, les machins. Et peut-être qu'il peut y avoir cette influence-là qui crée l'ambiguïté alors que le joueur, dans sa tête, était plutôt disposé à choisir plus vite. Non, ouais, c'est pas arrivé, ça, en tout cas.
Après, il y a aussi le problème qu'aujourd'hui, on est sur pratiquement la troisième, quatrième génération et le rapport au pays d'origine n'est pas le même que moi, je l'ai eu à l'époque.
Aussi.
Donc, ils se sentent peut-être plus français. Des fois, ils veulent faire le choix par rapport à la famille, ce qui est une erreur. Et c'est ce que je leur dis. Nous, de toute façon, moi, en tout cas, je suis clair avec la fédération. On ne met de pression à personne. Le choix, on les accompagne. Comme j'ai dit, quand il y a des doutes, quand t'as 17 ans, 18 ans, on peut comprendre qu'ils veuillent encore prendre le temps de grandir et de mûrir sa décision. Mais comme je dis, à partir d'un moment, quand t'as 20 ans, ça
est plus, c'est ça par rapport aux équipes de jeunes. Est-ce qu'il y a une limite, on va dire un âge à partir duquel tu dois choisir, ou est-ce que tu peux jouer en équipe de jeunes dans un pays et
oui, pour être c'est très ça clair, que tu peux, justement.
Ouais, mais justement, je veux savoir à peu près, puisque tu parles de l'âge, là, c'est intéressant.
Bah, Ali Chaud, par exemple, il a joué avec la France et l'Angleterre.
Est-ce que quelque part, tu fixes une limite, même, on va dire, sur le fait de choisir ou pas de ta sélection, même avant d'être dans la sélection
A, hein. Non, honnêtement, moi, c'est le ressenti. Mmh. J'aime bien m'asseoir avec le joueur et sentir un peu ce qu'il a dans le cœur et dans la tête.
La méthode Roland Courbis.
Souvent, tu le sens. Et des fois, moi, j'ai rencontré certains joueurs sans dire le nom. Tu sens qu'ils n'ont aucune attache avec le pays, donc ça n'a rien d'essayer de les convaincre.
Bah oui, en même temps, il ne faut pas forcer le truc. Quoi. Il faut pas forcer.
Moi, ce que je dis, alors, j'avais rencontré le petit Guendouzi sur un match. Je me rappelle, j'étais en poste au FUS de Rabat. Il était venu avec les U20 français à l'époque au complexe Mohamed VI, jouer contre les U20 marocains. Et donc, de par son nom, il était marocain. Et il m'a dit d'origine, j'ai dit, tu veux pas jouer pour le Maroc? Mais non, moi, c'est la France. Et il est resté, bravo à lui.
Bien sûr, voilà. C'est clair. Mais qu'il a fait son choix.
Je suis heureux pour lui et il a eu raison, mais au moins lui il joue pas sur l'ambiguïté, je peux venir, pas venir. Et comme par hasard, hein, les joueurs qui ont fait leur choix très tôt et qui ont pris la décision très jeune, comme Hakimi, comme Mazraoui, comme Ziyech, comme Boussoufa avant, Benassé, t'as pas de souci, les mecs ils...
Question en corollaire sur ce que dit Gilbert et ce qu'on est en train de parler, hyper intéressant par rapport au sélectionneur que tu es. Et sur le choix du sélectionneur, est-ce que c'est pas capital quand même et un avantage, en tout cas un atout, d'être un binational? Là, pour être très concret, est-ce que finalement tout ça, ce ressenti, ce que tu as expliqué, cette connaissance, le fait que à la fois tu es né en France, mais que pour toi il y a aucune ambiguïté pour le coup, est-ce que c'est pas un avantage? Je parle par rapport à Vaïd, en dehors de toutes les questions footballistiques là. Est-ce que finalement, même quand la Fédé te choisit, est-ce que là finalement tu dis pas bah oui, en plus
c'est naturel,
ça va régler un des problèmes majeurs d'une sélection africaine.
Moi, je le voyais pas comme ça, mais c'est sûr que forcément, j'ai pratiquement la même mentalité qu'eux. Je connais leurs problématiques. Je sais ce qu'ils peuvent ressentir, que ce soit de comment ils ont vécu en Europe ou le rapport au pays. Donc forcément, le message, je pense qu'il passera, il passe mieux avec moi, parce que voilà, ça reste quand même mon pays. Moi, je dis toujours qu'un sélectionneur, il pourra toujours mieux parler à ses joueurs quand il vient du pays qu'un autre, parce qu'à l'arrivée, ça reste ton pays. Tes décisions, elles sont importantes pour ton pays, pas pour toi.
À la Coupe du Monde, toutes les équipes africaines étaient entraînées par des sélectionneurs du pays. Enfin, il y avait la nationalité du pays. C'est fini l'ère
grosse,
des...
Grosse évolution par rapport
c'est fini l'ère des... j'allais dire mercenaires. Casper des mercenaires. Enfin, c'est fini l'ère des Européens qui viennent s'occuper des joueurs africains.
Je pense que... juste après, je vais laisser Walid, mais je pense justement que c'est peut-être pour avoir pris la conscience de ça dans plein de pays, de ce dont on parle là sur les binationaux, notamment, parce que c'est pas la même chose en France. Si t'as un très grand entraîneur allemand ou qui vient entraîner en France, ça va pas poser un débat.
Bah moi je pense
là-dessus.
Que si.
Non,
bah moi,
pas forcément.
Si.
Si un sélectionneur allemand prend l'équipe de France,
Non, mais je veux dire.
Ça veut dire que t'es en échec total, non, parce que t'es même pas foutu de trouver un entraîneur français.
Ça arrive un jour, je serai dans 25 heures de débat ici même.
Bien sûr, c'est pas le même débat.
La vérité, c'est qu'à part la Belgique avec Martinez, la France, ils ont un français, les Espagnols ont un espagnol, le Portugal a un portugais, les Anglais ont un anglais.
En fait, t'as eu Ericsson d'ailleurs.
C'est un échec quand les Anglais ils prennent pas un Anglais.
Moi je le vois de deux manières. C'est vrai qu'aujourd'hui je pense que l'Afrique a compris que voilà, avec un entraîneur local on peut faire des performances et ça c'est bien, et c'était bien qu'on soit à la hauteur sur cette Coupe du Monde, parce que je pense que c'était où ça passait ou ça cassait, c'est-à-dire qu'avec tout le passé qu'il y avait en Afrique, déjà les pays africains ont toujours eu ce côté un peu négatif par rapport à l'entraîneur local, et ont toujours penser qu'un entraîneur étranger pouvait apporter plus qu'un entraîneur
local. Ça, c'est vrai qu'il y a eu cette mentalité-là aussi.
Et il faut l'accepter, c'est comme ça. On a bossé pour qu'il y ait une nouvelle génération d'entraîneurs qui arrivent. Je crois que l'Afrique fait le meilleur nombre de points sur cette Coupe du Monde de l'histoire, avec 5 entraîneurs africains. Mais pour moi, c'est un faux problème, parce que tu es obligé déjà de réussir, parce que tu as 5 entraîneurs africains. Donc, s'il y en avait un qui passait, tu avais déjà un exploit avec un entraîneur africain.
Enfin, si je puis me permettre, Regragui formé en France.
Si c'est
formé en France. C'est pas du 100% local non plus dans vos parcours.
Hervé Renard, ça compte comment?
Non,
mais Hervé Renard, c'est pas en Afrique.
C'est pas la zone.
C'est pas du 100% local, mais moi, pour ma part, j'ai entraîné qu'au Maroc. Je crois qu'à Lyon, entraîné qu'au Sénégal. Après, oui, moi, je passais mes diplômes en France au départ. Oui, bien sûr que d'avoir été formé en France, d'avoir grandi en France, d'avoir joué dans le haut niveau aussi en France, ça aide forcément dans notre expérience. Mais aujourd'hui, je pense que, comme je dis, Ça veut pas dire que l'entraîneur africain s'est pris en main et qu'on est les meilleurs pour l'Afrique, mais ça veut dire que voilà, il y a d'autres options aujourd'hui pour les pays africains et qu'il faut peut-être se tourner de temps en temps vers l'entraîneur local.
Quand on va chercher, c'est que ces entraîneurs-là entraînent des grands clubs européens.
Quand on va chercher un jeune binational pour construire son équipe, est-ce qu'on fait vous parliez tout à l'heure de l'attachement au pays, de la non-ambiguïté. Comment c'est vu au pays, justement, si l'expatrié, puisque c'est comme ça qu'il est, ne parle pas la langue, ne connaît pas l'hymne national ou carrément ne parle pas la langue, vous devez faire attention à ce genre d'éléments-là ?
Oui, mais ça n'empêche pas que les critiques pour le binational sont encore plus exacerbées que pour le joueur local. De toute façon, le binational, quand l'équipe nationale n'est pas bonne, c'est de sa faute.
Évidemment.
C'est de sa faute. Ouais. Mais le joueur local aussi est très dénigré par les Marocains d'Europe aussi, ou même de chez nous. C'est-à-dire que quand on met beaucoup de joueurs locaux, en général, les binationaux aussi, en tout cas de l'Europe, disent « Ouais, mais ils n'ont pas le niveau, pourquoi on les appelle ?» Donc à chaque fois, on a cette lutte entre binationaux et locaux. Moi, j'ai essayé de faire un mix sur cette Coupe du Monde. Et je pense qu'au pays, ils sont tous justement, ils ont tous ressenti que cette équipe leur ressemblait. En tout cas, c'était important pour moi.
Et l'histoire de la langue, par exemple, je me souviens de cette scène avec Boufal à la fin d'un match. Question en arabe, et il lui dit s'il te plaît, en français.
Ah, mais c'est mieux, c'est parce qu'il maîtrise mieux.
Non, mais je suis d'accord, mais moi ça me pose aucun problème. C'est ce qu'on a dit, il est en France et
oui,
c'est
oui.
Mais c'est quoi le rapport à ça? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que même la fédération, la stratégie de communication, tout ça, ça
surtout qu'au Maroc, il y a une particularité, c'est qu'il y a plusieurs langues qui sont parlées au sein même de l'effectif.
Le souci, c'est qu'il y a l'arabe littéraire et il y a la darija. La darija, c'est un dialecte marocain, en fait, spécifique, qui ressemble un peu à l'arabe littéraire, mais que même moi, je maîtrise pas. Donc même moi, quand on parle en arabe littéraire, je préfère qu'on me parle ou en darija marocaine ou en français, ou je préfère m'exprimer plus en français pour qu'on me comprenne mieux, parce qu'après, les mots peuvent dire autre chose.
Quand Sofiane Boufal répond ça, en Maroc, ça
c'est sécurité.
Ils ont bien compris qu'ils voulaient mieux s'exprimer, ouais. Que ça faisait partie du jeu.
Puisque vous parliez de la parole, justement, vous faites partie des coachs que dans l'after on aime bien, c'est des coachs qui parlent.
Qui parlent de jeu.
Qui parlent de jeu, qui sont sincères, qui s'expriment. Et on aime bien. Je pense que la nouvelle tendance des coachs, c'est justement aussi de communiquer, de faire passer les idées.
Je traduis Daniel, en fait, il n'en peut plus de Deschamps et tout ça. En fait,
non. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, quand les tours passaient, et je crois que c'est le match avant la France, il y a une conférence de presse où, pour le coup, vous parlez beaucoup. Et je crois m'être posé la question ce soir-là, dit, est-ce qu'il n'est pas en train de trop parler, de laisser trop d'énergie dans cette conférence de presse où vous faisiez pratiquement un bilan alors qu'il restait encore un match à jouer?
C'est avant la France, hein.
Ouais, et je crois même que vous avez cette phrase que moi j'ai toujours combattue dans l'after, c'est la fin. En plus, vous l'avez piqué à Deschamps, donc c'est terrible pour moi. Et on ne retient que les vainqueurs. Ce qui, de mon point de vue, je l'ai dit ce soir-là, est une connerie dans le sens où je pense que le Maroc.
On retient.
À part l'équipe du Maroc qui ira gagner une Coupe du Monde, je pense qu'on se souviendra toujours de vous. Et que vous n'avez pas gagné pour autant. Vous avez fait demi-finale. Ce qu'on retient, c'est les émotions. C'est ce qu'on est capable de faire passer à un pays, ou même carrément, c'est encore mieux si ça transcende le pays. C'est-à-dire, en l'occurrence, en France, on a tous admiré ce que vous avez fait. Ça n'est que, entre guillemets, une demi-finale. Pour le Maroc, c'est un exploit. Il n'y a pas eu de victoire, mais pourtant, c'est comme une victoire. Donc, la phrase, on ne retient que les vainqueurs, ça ne veut rien dire. On va retenir pendant des décennies, tout le pays, tout le Maroc retiendra un demi-finaliste. Donc, vous voyez, cette phrase, pour moi, c'est trop limité, finalement.
Oui, après, moi, je joue mon jeu aussi.
Vous comprenez
en
ce que je veux dire?
Ouais, mais moi, je suis obligé de pousser mes joueurs. C'est-à-dire que je connais, moi, la mentalité de mes joueurs. Je connais la mentalité maghrébine qui, justement, quand on arrive en demi-finale, je ne veux pas qu'ils se disent c'est bon, on y est arrivé et, justement, on va nous retenir pendant 40 ans. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de leur dire que, attention, les gars, ils vont vous oublier. Même si je sais qu'ils vont pas les oublier, mais je suis obligé, c'est mon rôle, je suis dans mon rôle, moi, en conférence de presse, à chaque fois, je veux protéger mes joueurs et je veux envoyer un message à l'extérieur et à mes joueurs. Et le D'accord. message que je veux leur envoyer, c'est attention, on est en demi-finale. Moi, je sais qu'au fond, on a fait quelque chose de grand, mais je veux leur dire, on va vous oublier. Il faut essayer d'aller
pour
gagner.
Sur le feu, quoi.
Bah oui.
Pour revenir sur ce que tu dis, il faut qu'on fasse une dernière pause. Désolé.
Juste un point sur la com. Juste après.
Bah oui, c'est ça, en plus, j'allais te poser la question sur la com.
Une grosse minute et on revient. On a encore un petit quart d'heure avec Olivier Dragaré dans l'after. À tout de suite.